et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Deux grandes parties aujourd'hui avec un auteur québécois multiprimé, deux personnalités très célèbres en avant-première d'une émission de télévision réalisée ensemble et une séquence livre de poche entre la France et Djibouti. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
C'est l'actualité de la semaine. Le Québécois Éric Plamondon a reçu deux prix pour deux de ses livres en cette rentrée. Il sera avec nous depuis Bordeaux en France, où il se trouve actuellement. Nous vous offrons aujourd'hui deux moments forts en avant-première que vous pourrez voir dans la version télé de la librairie francophone à partir de lundi à la télévision donc. Amélie Nothomb raconte l'incroyable histoire de son père et Laurent Voulzy confie sa passion pour les cathédrales. Et puis une séquence livre de poche avec deux conseils de lecture. Philippe Djian vous emmènera en 2030 et Abdourahmane Ouaberi vous racontera son histoire personnelle liée à son handicap entre Djibouti et la France. Et les libraires sont avec nous, bien sûr, comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. On commence avec eux, le Canada. C'est le retour de Mike Viennot de la librairie Monet à Montréal. Bonjour Mike.
Allô Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va très bien toi?
Ça va, écoutez, tout va bien. Bientôt le Salon du Livre de Montréal. On espère qu'on pourra y aller et qu'on vous y retrouvera Mike, on verra ça.
Oui d'accord, oui, il y aura un salon physique cette année.
Parfait. Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Orléans, dans la librairie Les Temps Modernes, et vous représentez la France cette semaine. Bienvenue à vous en Suisse. C'est la radieuse Dominique Bressou qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry, toujours radieuse, hein?
Oui, oui, bien sûr.
Dans la librairie, une petite prose. Plus au nord, bien au nord même, c'est Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie Le Public par Filigrane. Et on commence par une anecdote de libraire. Ça tombe sur vous Déborah aujourd'hui.
Ça tombe sur moi, mais j'en ai des tailles.
Ah oui,
vous
je sais.
Vous savez
oui.
bien, vous me connaissez.
Oui.
Alors, nous les libraires, on a régulièrement la visite de représentants qui nous présentent des livres qui vont paraître. Alors, en général, on s'entend plutôt bien, mais parfois, vous voyez, les intérêts sont un peu antagonistes. Ils veulent nous en mettre et nous, on n'a pas envie de les prendre. Mm-hmm. Bref, donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous convaincre d'en prendre beaucoup. Ils ont un argumentaire débordant. Et je me rappelle du vivant encore de l'abbé Pierre. Il y en a une qui insiste pour que je prenne un livre sur l'abbé Pierre que je ne veux pas prendre.
Ouais.
Et pour me convaincre, elle me sort un « Allez, s'il te plaît, il est malade ».
Non, c'est horrible.
C'est horrible. Mais il y a des anecdotes horribles en librairie,
oui.
Emmanuel, il faut
savoir. Je ne sais pas comment la prendre, hein, celle-là.
Bah, oui. Comme je l'ai pris ce jour-là.
Oui, vous avez des histoires affreuses. Bon, allez, on se rattrapera avec la prochaine. Merci Déborah, merci pour cette histoire. Dans l'actualité littéraire francophone cette semaine, le Québécois Éric Plamondon a reçu deux prix. Le prix Lire en poche pour son roman Oyana, sorti au livre de poche, et le grand prix du livre audio dans la catégorie polar pour Takawan chez Audiolib. Bonjour Éric Plamondon.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations Éric.
Ben merci, ça fait plaisir.
Ah oui, ça fait plaisir pour le coup de vous avoir et de savoir que vous êtes primé. Takawan évoque la condition du peuple autochtone et de leur terre. Et Oyana raconte la vie d'un personnage qui vit un exil physique et identitaire. On va commencer par Takawan, Eric, si vous le voulez bien. Vous rendez hommage aux Inuits, sujet très sensible au Canada. Vous l'avez écrit un peu avant la publication du rapport de la commission Vérité et Réconciliation souhaitée par le Premier ministre Trudeau. On en a beaucoup parlé, il y a eu d'autres livres sur le sujet de puis dans celui de Michel Jean, avec Koukoum, vous avez lu ce livre-là, vous ?
Malheureusement, pas encore.
Bon, il faut le lire, hein, c'est un
il
livre absolument
pâle,
génial. Ouais, ouais. Joséphine Bacon et Naomi Fontaine ont, quant à elles, témoigné bien avant. Il fallait cette prise de conscience pour un avenir plus serein au Canada, selon vous, Éric ?
Il était temps de cette prise de conscience, et je pense que c'est peut-être pas un hasard si aussi c'est arrivé par les arts aussi. Vous parlez de Naomi Fontaine, et par la littérature, le théâtre, et par des maisons d'édition comme Mémoire d'Encrier, et il fallait que la parole sorte.
Oui. Alors l'un de vos personnages prononce une phrase qui est le socle de votre roman, de votre histoire. Il dit au Québec, on a tous du sang indien, si ce n'est pas dans les veines, c'est sur les mains.
Et oui, j'ai mis du temps pour m'en rendre compte. Il a fallu que je quitte le Québec hein, pour me rendre compte de mon ignorance. Je pense que c'est mon passage de l'Atlantique qui m'a permis de prendre conscience de quelque chose qui a été caché carrément pour ce qui est de ma génération. En tout cas, on n'en parlait pas à l'école.
Ouais.
C'était pas des sujets qui étaient dans l'actualité. Alors heureusement, c'est dans l'actualité aujourd'hui, sauf que c'est à chaque fois, c'est pas très drôle. Mais comme je dis souvent, au moins maintenant on en parle, au moins ça se parle.
Vous racontez ce jour de 1981 où 300 policiers québécois débarquent avec force dans une réserve pour confisquer les filets de pêche des Indiens Mi'kmaq. C'est ce que l'on a appelé la guerre du saumon de la côte nord parce que c'est une déclaration de guerre aux Innus, ça, de les empêcher de pêcher. Que s'est-il passé réellement ?
Alors, en 81, quand la police débarque, c'est carrément pour dire aux Mi'kmaq, vous n'avez plus le droit de pêcher le saumon, ce qu'ils font depuis des milliers d'années, en leur reprochant d'empêcher trop, alors que pendant ce temps-là, au large, les chalutiers empêchent à peu près 1000 fois plus que les Mi'kmaq, et là, eux, ils ne sont pas embêtés. Mmh. Donc bon, ça fait partie des tensions que j'essaie de mettre au jour dans le roman. Quoi.
Ouais. Avec votre histoire et vos personnages, Éric Plamondon, vous décrivez la façon dont sont perçus les Indiens du Québec, longtemps désignés comme sauvages. On a réquisitionné leurs terres, on a obligé certains, beaucoup même, à l'éducation dans des pensionnats dédiés où il y a eu plus que des abus et on en découvre encore aujourd'hui, toujours plus. C'est effrayant.
Ouais, c'est d'autant plus effrayant que moi, quand j'ai écrit le roman, moi je l'ai écrit entre 2014 et 2016. Quand je parlais de ces histoires, c'était pas encore au niveau du grand public. Et puis je me souviens de gens qui m'ont dit, ouais, quand même, quand tu parles de ton personnage qui s'est trouvé dans ce pensionnat, tu penses pas que t'exagères un peu? C'est vraiment de la fiction. Et malheureusement, 10 ans plus tard, on voit que finalement, moi j'étais très gentil dans mon roman et que la réalité est beaucoup plus brutale.
Oui. Michel Jean raconte tout ça d'ailleurs dans Coucoum, il faut que vous lisiez absolument ce livre. On a retiré certains enfants de leurs parents, au prétexte qu'il fallait les éduquer dans la culture canadienne moderne. Le 30 septembre dernier, le Canada célébrait pour la première fois la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Il était temps, hein ?
Ben oui, c'est pas trop tôt. Je me souviens même qu'après l'élection de Justin Trudeau, qui s'était rendu sur une réserve indienne, j'avais vu dans le journal que c'était le premier ministre canadien du gouvernement fédéral à se rendre sur une réserve indienne pour une visite officielle. Donc vous voyez, il a fallu attendre le 21e siècle.
Ouais, ça a mis énormément de temps. Votre roman, Éric Plamondon, est une grande réflexion aussi sur le concept de terre natale. Le retour aux sources, les racines, la terre natale, ça questionne un peu toute votre œuvre en fait, Éric Plamondon.
Oui, quand ça fait plus de 20 ans qu'on a quitté son pays, c'est sûr que c'est des questions qui nous travaillent. Et puis plus le temps passe, plus ça nous travaille finalement, je pense. C'est pas un hasard si par la suite, je suis allé encore peut-être un peu plus loin dans ces questionnements-là avec le roman suivant qui était Oyana, justement.
Bon, on va en parler dans un instant de ce livre aussi. Takawan est paru donc aux éditions Kida, mais en poche au livre de poche. Il est donc aussi disponible en livre audio chez Audiolib, qui a donc obtenu le grand prix du livre audio. On va en écouter un extrait avec une lecture du comédien François Héry. Éric Gendron.
C'est un drôle de concept, la terre natale. Ce sont de drôles de concepts, le territoire, la culture, la langue, la famille. Comment ça fonctionne dans la tête des humains? Ils sont les enfants de leurs parents. Ils naissent au sein d'une communauté à un moment précis, quelque part. Mais d'où vient cette incroyable force collective qui mène le monde depuis toujours? Défendre son territoire, son identité, sa langue. D'où vient cette nécessité, comme innée, depuis le fond des âges, qui veut que l'espèce humaine se batte et s'entretue au nom d'un lieu, d'une famille, d'une différence irréductible? Pourquoi mourir pour tout ça?
Un extrait de Takawan d'Éric Plamondon. Vous posez cette question, Éric, hein, pourquoi mourir pour tout ça?
Oui, et je pense que c'est le genre de question qu'il n'y a que la littérature, en tout cas, qui peut y répondre. Je n'ai pas de réponse moi-même, je laisse répondre les livres.
Ouais. On va donner la parole à notre libraire québécois Mike Viennot. Les livres d'Éric Plamondon sont-ils un succès en librairie, tiens, au Québec? Je suppose que oui.
Oui, c'est clairement un grand succès, mais je dirais que le prochain livre est toujours un succès d'avance. Les gens l'attendent beaucoup.
Ah oui. Alors comment on l'explique ça? Parce qu'il parle justement de notre vie contemporaine. Il y a eu plein d'épisodes, plein d'ouvrages qui évoquent notre société contemporaine, l'histoire aussi, l'histoire moderne, et puis parfois, effectivement, un retour aux sources.
Ben c'est ça justement. Je pense que chez Éric Plamondon, il y a cette écriture extrêmement moderne, mais qui vient chercher les éléments du passé. C'est une écriture qui est franche. Et avec Éric Plamondon, on a toute une variété, toute une couleur qui lui appartient. Et il a conservé son accent dans l'écriture. Je pense que ça donne vraiment toute une identité particulière. Les gens aiment retrouver cette identité-là dans ses textes.
Voilà, succès aussi en France, Éric Plamondon. Vous êtes d'accord avec ce que dit notre libraire?
Ben, ça me fait très plaisir, puis ça me donne juste l'envie de reprendre mon accent plus que... C'est vrai que quand je suis à Bordeaux, c'est plus difficile, mais merci beaucoup, en tout cas.
Bon, vous avez reçu un autre prix, le prix Lire en poche à Gradignan pour Oyana, paru au livre de poche. Vous avez fait un pont étonnant entre le Pays Basque et le Québec. En fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un écho à explorer dans le domaine de la question identitaire et sur le sujet de l'indépendance d'une région.
Eh ben oui, moi quand je suis arrivé justement en tant que petit Québécois qui débarquait dans le Sud-Ouest fin des années 90, après le second référendum sur la question de l'indépendance du Québec, je suis arrivé ici en 96, je suis allé en vacances le premier été où j'étais là au Pays Basque et j'avais jamais entendu vraiment parler des Basques et de la question nationaliste et ça m'avait quand même, j'ai quand même tombé en bas de ma chaise en me rendant compte que les mêmes questions qu'on se posait au Québec depuis tant d'années se posaient jusqu'ici quoi, sur le bord de l'Atlantique. Et en plus, à l'époque, j'étais en train de terminer un mémoire sur la chasse à la baleine. Et là, je m'étais retrouvé à Saint-Jean-de-Luz, dans le plus haut point de l'histoire de la chasse à la baleine. Et donc, tout à coup, il y avait plein de liens qui se tissaient. Puis bon, par la suite, maintenant, aujourd'hui, on sait bien que ce sont quand même les Basques, les premiers découvreurs du Québec. Donc, c'est toujours resté là. Et pendant des années, je me suis dit, un jour, j'explorerai ces rapports entre le Pays Basque et le Québec. Ouais. Et ça a donné Oyana.
Alors, Oyana est une jeune femme qui a connu l'ETA et qui doit s'exiler. Et elle choisit de se réinventer une vie à Montréal. C'est ça l'histoire au départ.
Voilà, on la retrouve à Montréal, elle a une quarantaine d'années, et l'annonce officielle de la dissolution de l'ETA en mai 2018 va la ramener vers son passé, et c'est ce qu'on va suivre à travers au départ des lettres qu'elle va écrire à son mari, puisqu'elle est mariée à Xavier, un Montréalais d'origine.
Oui, oui.
Et voilà, on peut pas trop en dire pour pas donner le punch, mais c'est ça le début de l'histoire.
Bon, merci beaucoup Éric Plamondon d'être revenu dans la librairie francophone, et bravo pour ces deux prix obtenus en cette rentrée littéraire, donc.
Un grand merci à vous.
Takawan, Oyana et toute l'œuvre d'Éric Plamondon est à découvrir. Lisez ses livres, c'est absolument génial, faites-nous confiance. Toutes les références sont sur notre site internet. À bientôt Éric.
À bientôt Emmanuel.
À suivre, le nouveau roman d'Amélie Nothomb et les passions pour les cathédrales de Laurent Voulzy. Ce sera après le groupe La Femme dans la librairie francophone.
Et pourquoi je n'ai pas eu de peine? La vie m'a causé quelques
Femme avec Nouvelle-Orléans. Une nouvelle émission de la version télé de la librairie francophone sera disponible à partir de ce lundi 25 octobre au Canada et en Suisse sur ICR TV et sur RTS la 2. Diffusion en Belgique mercredi 27 sur RTBF la 3 et dimanche 31 à midi sur TV5 Monde. Nous vous offrons aujourd'hui deux moments de cette émission en avant-première pour la radio. Amélie Nothomb et Laurent Voulzy. On commence avec un large extrait de cet entretien télé avec Amélie Nothomb autour de son nouveau roman.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Emmanuel.
Pour la première fois, la télévision avec moi, on a fait énormément d'émissions de radio ensemble et on en a vécu des moments. Vous aimez bien jouer un petit peu avec les médias, hein? On a vécu des moments fous.
On a vécu des moments inoubliables, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore plus inoubliable. J'ai trinqué au champagne avec Laurent Voulzy.
Oui. Enfin,
l'heure est grande.
Avec modération, en plus.
Pas tellement.
Mais si, si, si. Vous publiez Premier sang, l'histoire incroyable de votre père. C'est passionnant, bien construit, accessible à tous les lecteurs. Bravo à vous, Amélie. On verra tout à l'heure si les libraires sont d'accord avec moi. Votre père a vraiment vécu un peloton d'exécution au Congo à l'âge de 28 ans?
Oui. Le premier poste de mon père quand il avait 28 ans, ça a été le Congo qui venait d'obtenir son indépendance. Et il y a eu à ce moment-là la plus grande prise d'otage du XXe siècle à Stanleyville, ouais, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani. Et mon père, comme jeune diplomate, s'est retrouvé dans la peau du négociateur. Il y avait 1500 otages et c'était lui qui devait négocier. Ça a duré 4 mois.
Ouais.
Et il n'avait pas d'autre arme que la parole. Et par la parole, il a pu sauver la quasi-totalité des otages.
Sauf qu'il a un handicap, on verra ça tout à l'heure, un handicap qui va le mettre en danger de façon considérable. Vous le laissez donc avant son exécution programmée pour revenir sur sa vie et aussi sur son enfance. Son père à lui meurt alors qu'il a 8 mois. Un bête accident comme ça d'exercice militaire. Sa mère va le confier alors à ses parents. Il va être très tendre, pas très endurci. Alors son grand-père va décider de l'aguerrir. Et pour l'aguerrir, il faut l'envoyer chez des barbares, vous les nommez comme ça.
C'est-à-dire chez les Nothomb.
C'est ça.
Voilà.
Oui.
Les Nothomb qui sont une espèce de tribu préhistorique vivant au fin fond des Ardennes belges. Bon, ils sont aristocrates, mais l'aristocratie, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'ils vivent encore un siècle en arrière. C'est-à-dire que pour éduquer les innombrables enfants de cette tribu, il n'y a pas d'autre règle que le darwinisme pur et simple. Oui. Dans ce très beau château où il n'y a ni chauffage, ni rien, ni nourriture, les enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans, sont pour ainsi dire livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne les nourrit pas. S'ils survivent jusqu'à l'âge de 16 ans, alors peut-être on va envisager de les nourrir. Mon père, qui a 6 ans, atterrit dans cette famille, et le comble, c'est qu'il trouve ça absolument génial.
Oui, c'est ça, c'est qu'il veut y retourner. Alors, voilà. Il y a même un gamin qui lui dit, parce qu'il va rencontrer alors donc ses grands-parents paternels, grand-père paternel, qui lui a déjà eu des enfants, d'autres enfants qui ont le même âge que lui.
Oui.
Il y en a même un qui a le même âge exactement que lui.
C'est ça. Il rencontre ses oncles et tantes qui ont le même âge que lui, et il est fou de bonheur parce que lui, qui jusqu'à l'âge de 6 ans a été totalement abandonné avec 2 vieilles personnes, ouais, a un sentiment d'appartenance à un clan. Alors
c'est
peu
ça.
Importe, ouais, qu'il soit humilié, affamé, gelé, parce qu'il fait un froid abominable, c'est la Sibérie belge.
Ouais. Ouais. Oui, ils sont frigorifiés, hein.
Oui,
en guenilles,
c'est ça. Peu lui importe les conditions de vie extrêmement dures, il a enfin le sentiment d'appartenir à un clan, et ça, il trouve ça plus fort que tout.
Et les autres enfants vont lui dire une phrase terrible. Toi, tu n'es ici que pour les vacances, tu survivras. Mais lui va revenir donc. Pourtant, il est tout maigre. Quand il rentre chez ses grands-parents maternels, on est désespéré parce qu'il est maigre comme un clou. Mais à 6 ans, il n'a qu'une seule obsession, votre papa, Amélie Nothomb, c'est de s'adapter.
de s'adapter. Il a toujours été comme ça. Je crois que c'est pas pour rien qu'il est devenu un très très grand diplomate. Ouais. Mon père a toujours été capable de s'adapter à des situations mais invraisemblables. Bon, le comble étant quand même cette expérience d'otage. Il a été lui-même otage pendant 4 mois, négociateur avec des otages armés de Kalachnikov qui ne demandaient qu'à leur tirer dessus.
Avec 1500 personnes.
1500 otages.
C'est la plus grande prise d'otage.
La plus grande prise d'otage du XXe siècle. Et chaque fois qu'on a demandé à mon père quelle avait été la plus belle période de sa vie, il a toujours répondu celle-là. Ce qu'il a préféré dans sa vie, c'est d'avoir été le négociateur dans cette prise d'otage.
Alors, il est poète, le grand-père.
Le grand-père est poète.
Et alors, il va décider, comme ça, à tout moment, au cours d'un dîner, de déclamer des poèmes.
Oui.
Quand l'inspiration lui vient, il arrête le dîner. Imaginez ça chez vous, par exemple. Si vous avez quelqu'un qui interrompt le dîner, qui va déclamer des poèmes. Et puis, l'un des enfants, qui a 16 ans, Jean, va appeler ça des poèmes.
Des poèmes,
il
parce
dit,
qu'il trouve
pathétique.
Que c'est ça, parce qu'il trouve que c'est de la merde. Parce que, en fait, c'est des poèmes comme on n'en écrit plus depuis le 19e siècle.
Ça. C'est suranné, comme
mon arrière-grand-père, Pierre Netombe, était un poète relativement connu en Belgique de son temps, mais qui écrivait des poèmes comme on n'en écrivait plus depuis très longtemps. Il y a un côté uchronie dans mon histoire. Les gens me disent, mais ça ne peut pas se passer de 1936 à 1950. Enfin,
Et pourtant,
et il y a un facteur de recul temporel dans le fait que ça se situe dans un château d'une famille aristocratique au fin fond des Ardennes belges.
Alors, j'avais dit que votre roman Soif était absolument génial à la radio, je me rappelle, et je le redis, lisez Soif, si vous ne l'avez pas lu, c'est sur la vie de Jésus, à votre façon, c'est génial, et celui-ci aussi, selon moi, on va voir les libraires, Amélie, s'ils sont d'accord, avec la Suisse et la Belgique, vous voulez commencer par qui ?
Oh, la Belgique, quand même.
La Belgique, Déborah Damblon.
Eh ben, j'ai évidemment absolument apprécié ce livre, mais jusque dans les moindres détails. J'ai, comme toujours avec vous, Amélie, on commence, on lit une phrase et on est aspiré jusqu'au bout de l'histoire. Et puis après, il y a les personnages dont vous venez de parler et qui sont, mais ahurissants et délicieux jusque dans les moindres détails. Après, ce qui m'a aussi intéressé, c'est votre éclairage sur des points d'histoire dont j'avais toujours entendu parler et que j'ai enfin compris par vos explications. Mais surtout, ce qui m'a ému, ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé, c'est cette puissance que vous avez eue de redonner vie à votre papa. Et ça, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est très
Merci,
bien
Déborah.
Fait. On a l'impression que vous y avez été, en fait.
Je vous jure que pourtant, c'est pas vrai, mais...
Qu'est-ce qui n'est pas vrai ?
Ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est que mon père est mort.
Ouais.
C'est la tragédie de tout le monde. Tout le monde perd son père.
Et vous aviez écrit Soif pour lui, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais... Bon, il est mort au premier jour du confinement. Je n'ai pas pu me rendre à son enterrement. Ça a été une double peine. 6 mois après sa mort, je n'avais toujours pas commencé mon deuil. Ça se passait toujours aussi mal. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir enfin dire au revoir à mon père. J'ai commencé à écrire Premier Sang dans l'idée de ressusciter mon père, histoire de pouvoir enfin lui dire au revoir. C'est exactement ce que j'ai fait. Curieusement, d'une certaine façon, ça a marché. Je disais à papa, écoute, exprime-toi à travers moi, parle à travers moi.
Vous avez ressenti ça ?
J'ai vraiment ressenti ça. Bon, c'est quand même moi l'écrivain, mais c'est sa voix. Et je pense que les gens qui l'ont connu reconnaissent sa voix à travers mon texte.
Bon, on va voir la Suisse avec Dominique Bressoux. Dominique ?
Oui, alors moi j'ai trouvé qu'on entrait tout de suite dans le monde et la personnalité de ce petit garçon à l'enfance peu banale. Moi j'ai dévoré ce livre en quelques heures, avec de la curiosité mêlée à de l'amusement et de l'empathie, un mélange sans égal qui fait vraiment vibrer d'émotion. Vous nous faites vraiment ressentir l'admiration mêlée de tendresse envers cet homme au destin exceptionnel qu'était votre père.
Merci infiniment.
Alors Amélie, votre père va grandir, on ne va pas tout raconter, mais il va devenir donc consul effectivement à Stanleyville, juste après l'indépendance du Congo. Mais il a un problème, il s'évanouit à la vue du sang frais. Et alors, quand il se retrouve le 6 août 1964 dans la plus grande prise d'otage du XXe siècle dont on parlait, les rebelles vont ensuite s'emparer de la ville, il y a 1500 blancs comme ça qui habitent, qui deviennent des otages, le négociateur c'est lui, et il tue des otages. Un par un. Et le négociateur, le consul, normalement, doit honorer la mémoire des otages, en tout cas regarder, sauf qu'il ne peut pas.
Il ne peut pas, parce que s'il regarde l'otage qui vient d'être abattu, il sait qu'il va s'évanouir et il sait qu'alors il perdra toute crédibilité aux yeux des rebelles. Donc, quand quelqu'un vient d'être tué, il s'applique à ne pas le regarder, puis les rebelles remarquent, mais enfin, monsieur le consul, vous ne regardez pas votre ressortissant. Et mon père répond, c'est par respect pour leur âme.
Oui.
Et ça marche.
Et ça marche. C'est drôle et très triste à la fois.
C'est tout à fait typique du destin de mon père. C'est que mon père a vécu des choses qui nous auraient valu à tous 12 années de psychanalyse et tout, et qu'il racontait avec une espèce d'hilarité.
Oui, c'est ça.
Était un homme extrêmement sensible.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
La suite de cet entretien avec Amélie Nothomb dans la version télé de l'émission avec un questionnaire de Proust francophone à ne pas manquer. Retour en studio radio avec les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. La France avec un coup de cœur, Sophie Todescato.
Oui, c'est un coup de cœur pour un livre qui vient de paraître aux éditions Les Échappées, qui s'appelle Nos Solitudes. Il est signé Yannick Enel. Alors Yannick Enel, il est écrivain, il est aussi chroniqueur à Charlie Hebdo. Et après avoir publié le récit du procès des attentats de Charlie de 2015, il consacre aujourd'hui un livre à ceux qui ont témoigné pendant le procès. Ces témoins, c'est-à-dire des survivants sur lesquels pèse la responsabilité de ne jamais oublier, de ne jamais complètement quitter cette rive-là des morts pour transmettre ce qu'ils ont vu aux vivants. Il restitue leur courage aussi, qui empêche en tout cas que la terreur est le dernier mot.
Bien, notre solitude de Yannick Enel aux éditions Les Échappées. On a un petit problème de liaison avec vous, Sophie, aujourd'hui, on est désolé. Merci pour ce coup de cœur, Sophie. Un coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Oui, mon coup de gueule, c'est une situation un peu irritante. Des fois, on a des clients un peu nouveaux ou de passage qui nous visitent puis qui s'imaginent qu'on est un fast-food. Alors, les gens veulent avoir tout immédiatement, le tout de suite, c'est « donnez-moi ci, faites-moi ça ». On est occupés, nous, les libraires, on fait 100 000 tâches, mais on a toujours le temps de prendre du temps pour nos clients, les nouveaux comme les réguliers. Donc, un petit bonjour, un petit merci, ça fait toujours un peu de bien. Et puis, on aime ça parler avec nos clients.
Ouais, c'est ça, faut prendre le temps finalement quand on est dans une librairie, on peut enfin.
Ben oui, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de plaisir.
Bon, faites plaisir à Mike s'il vous plaît. Merci Mike, vous allez regarder la librairie francophone à la télé Mike, je suppose.
Bien sûr.
Bon, ce sera lundi soir sur ICI RTV avec Amélie Nothomb donc. Et donc Laurent Voulzy pour son livre sur les cathédrales dont voici un extrait en avant-première. Et bonjour Laurent Voulzy.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez « Mes cathédrales » chez Stock, un livre qui raconte votre passion pour les cathédrales et basiliques. L'histoire, avec un grand H, le Moyen-Âge, sont vos passions depuis votre adolescence. Tout commence avec un jouet un jour, un château fort, dites-vous. Et puis il y a aussi le feuilleton Ivanhoé avec Roger Moore.
Ça a commencé quand le feuilleton passait à la télé, je devais avoir 12 ans. Quoi. Oui. Et puis ensuite, ma mère m'a offert, comme je faisais Ivanhoé à la maison et à la récréation, ma mère m'a offert un château fort. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me passionner pour l'histoire. Oui. Particulièrement pour le Moyen-Âge, et je ne sais pas pourquoi.
Mais alors, vous avez donné de nombreux concerts dans des cathédrales. Très récemment, vous avez mis du temps, en fait, à aller dans ces lieux-là pour faire des concerts. Vous auriez pu le faire avant?
Oui, j'aurais pu le faire avant. Là, on vient d'en faire à peu près 165. Oui. Il n'y a pas 165 cathédrales en France, quoi qu'il y en a.
Il y en a pas mal.
130, quand même. Mais dans les grandes églises, les basiliques, les abbayes. Oui, j'avais eu une première expérience après avoir fait un album inspiré par le Moyen-Âge, la France et l'Angleterre, qui s'appelait Listen Love. Et là, j'avais chanté dans 3 cathédrales, dont une église à Londres. Et j'avais été très, très marqué par cette expérience. Et j'en avais sans doute parlé à la radio, puisqu'un producteur de concert m'a appelé en me disant « Écoutez, je vous ai entendu parler et des cathédrales, et cette expérience que vous avez eue en faisant des concerts là, est-ce que ça vous dirait de faire d'aller plus loin ?»
Alors c'est ça, c'est exactement ça. Dans ce livre, vous découvrez l'architecture et l'histoire de ces cathédrales. Et vous notez qu'il y a 2 principes fondamentaux communs à la grande majorité de ces édifices. On les construit sur des cours d'eau et on les oriente vers l'Orient en se référant au lever du soleil, puisque c'est la définition du mot orienté.
Oui, voilà, exactement. Oui,
donc,
oui.
Toutes les cathédrales sont construites de la même façon.
Oui.
Il y a des cours d'eau, des fleuves ou des lacs en dessous.
Oui, en fait, on s'est aperçu qu'en fait, il y a des nappes phréatiques ou des courants, vraiment des courants, des rivières souterraines. Elles sont orientées toujours vers le Salé. Je pensais qu'elles étaient orientées vers Jérusalem. Ouais. Mais en fait, il y a des cathédrales qui sont de l'autre côté de Jérusalem et qui sont quand même orientées vers l'Est.
D'accord.
Donc en fait, elles sont orientées vers le soleil levant. Ouais. Ouais, ouais.
Et alors, il y a des forces telluriques, dites-vous. Vous y croyez très fort. Alors ça existe, évidemment. Mais vous croyez à l'influence de ces forces sur l'édifice.
Bien sûr. Je crois, j'ai fait l'expérience notamment dans une des cathédrales, avec Laurent Geoffrin, qui a co-écrit le livre avec moi. On a fait l'expérience, les sourciers qui trouvent des puits depuis la nuit des temps, c'est totalement avec des baguettes, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, alors, c'est pas scientifique. N'empêche qu'on peut pas le mesurer, mais il trouve l'eau avec des baguettes. Et donc, je crois aux forces telluriques, bien sûr.
Ouais.
Ouais, ouais. Alors, il y a des courants cosmotelluriques, oui. Voilà.
Vous croyez à plein de choses, hein, Laurent, cela dit entre nous.
C'est-à-dire,
Vous confiez pas mal de choses, hein.
Oui.
Vous pouvez passer pour un illuminé, hein, si je peux me permettre. Mais
oui.
Non, vous défendez votre.
Non, mais ce qui serait illuminé, c'est de ne croire en rien.
C'est vrai.
Non, mais. C'est-à-dire, je n'élimine aucune hypothèse.
Ouais, voilà. Ouais. Oui, contrairement à Alain Souchon, à Laurent Geoffrin, par exemple, qui
voilà,
se moque un peu de...
Avec Laurent, c'était bien, parce que on visitait les cathédrales ensemble. Oui. Lui croit que ce qui est visible,
oui.
Donc je l'appelle Saint Thomas. Donc lui s'occupe du visible et moi de l'invisible. Non, mais bon, en même temps, c'était une belle aventure.
Bon, un jour, vous allez chanter au Mont-Saint-Michel, Laurent Voulzy, et à l'abbaye. Vous faites une rencontre étonnante. Là aussi, il y a un signe, avec une jeune femme.
Ah oui, c'était formidable. 5 mois avant de chanter au Mont-Saint-Michel, on est allé en très petite équipe pour repérer le lieu. Et à un moment, une fois qu'on avait repéré l'endroit où on allait chanter, c'était un matin, 9h, il n'y avait personne, complètement hors saison, une lumière magnifique, radieuse. Et je pars au fond de l'église. L'abbatiale du Mont-Saint-Michel, l'abbaye est très grande, et magnifique évidemment. L'abbatiale, l'église elle-même n'est pas très grande. Je vais tout au fond, et là je croise une dame, une sœur,
ouais.
Et elle me dit... Vous êtes en visite, alors on se serre la main, et je lui dis, oui, je suis en visite, oui. C'est une visite est un petit peu professionnelle, ah bon, pourquoi? Alors je lui dis pas qui je suis, mais je lui dis, il va y avoir un concert dans quelques mois ici. Et elle me dit, j'ai travaillé dans votre maison.
Oui, c'est ça, en Bretagne.
En Bretagne. Alors je lui dis, c'est-à-dire, vous avez une maison sur une île? Je lui dis, non. Ah, vous avez une maison sur une île? Je fais, non, sur une presqu'île. Oui, ben c'est ça, vous avez une maison sur une presqu'île. J'ai travaillé sur votre maison.
Oui.
Vous êtes architecte? Elle me dit, oui, j'étais architecte. Comment vous appelez-vous? Jeanne.
Voilà, Jeanne.
Alors là, c'était quand même...
Et ça fait référence à votre chanson,
ben
Jeanne.
Oui, ça m'avait beaucoup marqué.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie.
La suite de cet entretien avec Laurent Voulzy dans son intégralité, ce sera donc dans la librairie francophone TV sur RTS La 2, RTBF La 3, ici RTV de Radio-Canada et sur les 9 réseaux de TV5 Monde. Dans un instant, notre séquence Livre de poche avec Philippe Djian et Abdourahman Waberi, de livres à lire absolument. Avant cela, on écoute l'artiste sénégalais Las.
Sonunga yaw tinjabot gile way Amen ya nangu ni yensa yanga dantari Yaw ya mangembu dembe mama na don tay sembe Yaw ya ma khelal dembe Mamana don tay sa goor inambu fama e kankan Mero perto lo sei dom yongi gorgolo Mero perto lo sei dom yongi gorgolo Mero perto lo sei dom yongi gorgolo Mero perto lo sei dom yongi gorgolo
Mani mani mani
Mero perto lo sei don non
C'était Las avec Méran Pertoulou dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La semaine dernière, je vous annonçais Philippe Djian pour un entretien grand format avec nos libraires. Nous avons appris juste avant cette émission qu'il est positif au Covid. On lui souhaite donc un rapide rétablissement et vous le retrouverez prochainement, bien sûr, dans la librairie francophone à une autre date pour son très bon nouveau roman qui vient de paraître chez Flammarion. En attendant, je vous propose de l'entendre sur son précédent livre 2030 qui vient d'ailleurs de sortir en poche chez J'ai lu. Nous l'avions reçu l'an dernier. J'étais moi-même à ce moment-là confiné à distance, car cas contact, comme quoi le Covid est une grande histoire entre Philippe Djian et nous. Bonjour Philippe Djian.
Bonjour.
Chacun de vos passages à la librairie francophone a laissé des souvenirs. On a souvent joué ensemble à râler, Philippe Djian, souvent parce que vous préférez parler du style que des thèmes de votre livre. Mais dans 2030, ce nouveau roman, il y a un sacré sujet, bien exploré en plus, celui d'un monde qui vacille avec les changements climatiques et avec des personnages qui ont tous des traumatismes et des secrets. Dresser des portraits, c'est cela qui vous a encore motivé pour ce livre ?
On va arrêter de parler du style parce que maintenant je commence à être un peu vieux. Donc à 71 ans, tout le monde doit savoir de quoi je veux parler quand je parle du style. Donc on va peut-être parler de l'histoire pour une fois.
D'accord.
Bah oui, il y a des personnages, mais qui sont... Il y a cette jeune femme, enfin cette jeune fille, mais qui deviendra une jeune femme dans le livre, qui est Greta Thunberg.
Oui.
Tout est parti d'elle, en fait. Tout est parti de son visage, d'une espèce de... ce côté paisible, enfin, que moi je ressens en la regardant, et en même temps ça mettait en valeur tous les imbéciles qui ont commencé à dire de quoi elle se mêle, qu'est-ce que c'est que cette petite nana, à son âge elle ferait mieux d'aller à l'école. Ça, j'ai trouvé que c'était insupportable, parce qu'en même temps tous ces gens qui étaient contre elle avaient pas de solution, et c'était des vieilles personnes comme moi. Donc c'est plus à nous de parler et de dire ce qu'il faut faire.
Alors c'est vrai qu'on voit cette jeunesse qui se mobilise, on croise une doublure de Greta Thunberg en quelque sorte dans votre livre. Cela vous rassure, Philippe Djian ? Vous les admirez, ces jeunes-là, ou c'est de la com, selon vous ?
C'est ni de la com, ni de l'admiration, c'est simplement trouver que c'est bien qu'à un moment, les gens qui sont concernés s'occupent de leur avenir. Et moi, j'ai plus à m'occuper de mon avenir. Les gens de mon âge, on n'a plus à s'occuper de notre avenir, on a juste à réussir notre mort prochaine. Donc on n'a plus à intervenir, sinon se mettre à leur service et de les aider éventuellement, mais pas de les enfoncer ni de dire de quoi ils se mêlent. Ils se mêlent justement de quoi il faut qu'ils se mêlent. C'est ça le problème. La résilience de l'homme, c'est incroyable. Je pense qu'on s'habitue à tout et qu'on va s'habituer à avoir des étés très chauds, à des hivers peut-être glacés. On va boire du vin qui pousse au fin fond de la Norvège, enfin... Mais on va s'adapter, même quand ça va être terrible. Aujourd'hui, si je vous disais, vous n'allez plus trouver d'aspirine, vous n'allez plus vous trouver des lentilles pour vos verres de contact. Enfin, on va s'habituer. On n'arrête pas de s'habituer tout le temps.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires qui ont lu votre roman, Philippe Djian, Canada, ça vous va ?
Ah, je les aime bien, les Canadiens. Allons-y.
Allez, allons-y. Josiane Letourneau, c'est à vous.
Eh bien, moi, j'ai plongé dans cette histoire comme on marche dans un marécage en compagnie des personnages les plus cyniques et désabusés que j'ai croisés en littérature depuis longtemps. Et ce roman est d'autant plus troublant qu'il dépeint une réalité qui pourrait être la nôtre. Bref, malgré son terrible pessimisme, j'ai lu cette histoire avec une paradoxale fascination.
Bon, c'est pas mal.
Est-ce que c'est un compliment ou pas ? Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Si, j'imagine.
Bah oui.
Mais même si ce n'est pas un compliment, ce n'est pas grave. Chacun doit lire et ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Mais déjà, s'il y a une espèce de fascination, j'espère que ce n'est pas une fascination morbide, mais sinon, c'est bien, oui ?
Oui, c'est bien. C'est bien. On va voir avec Déborah en Belgique, tiens, si elle est d'accord. Déborah.
Bah moi, du côté de ce que j'ai aimé dans ce roman, il y a les personnages, effectivement, leurs interactions, j'ai aimé leur façon de déambuler, d'exister, d'échanger entre eux. Ils étaient vraiment là devant moi pendant que je lisais et j'ai eu vraiment l'impression de ressentir ce qu'ils traversaient. Ils m'ont semblé juste vrai, c'est tout. Mais du côté de ce qui a moins plu, il y a votre espèce de futur trop présent, de présent déjà futuriste. Bon, j'ai bien compris la parabole, je suis d'accord avec les explorations, mais moi, j'ai pas tout à fait marché.
Bon, voilà, Déborah mitigée.
On peut comprendre, je veux dire, il est bien évident qu'à un moment, c'est pas mon genre de faire des enquêtes ou de faire des analyses particulières sur ce qui pourrait éventuellement être ce monde dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc l'idée, c'était pas celle-là. C'était simplement de me dégager d'une espèce de polémique que je sentais venir si je prenais la défense de cette jeune femme, Greta Thunberg. Donc je la mets dans 10 ans. Donc plus personne, tous les gens qui, Léon Frey, tous ces gens-là qui lui ont tapé dessus, pourront pas venir me dire, mais de quoi tu te mêles, de qui tu prends la défense? C'est un roman d'anticipation dans 10 ans, donc venez pas me casser les pieds avec ça.
C'est vrai qu'il n'y a pas de morale ni de message dans ce roman,
ah bah heureusement.
Mais comme souvent hein, chez vous,
mais heureusement.
C'est comme un état des lieux.
Qui
c'est comme si cette année 2030 était un décor pour vos personnages qui font un peu ce qu'ils peuvent et vous dépeignez comme ça des personnages.
Mais parce que je pense que si dans 10 ans, l'effondrement complet et total n'aura pas lieu, mais il y aura un ajustement, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à avoir des 50 et 60 degrés l'été, à avoir des incendies qui ravagent la moitié de la planète, on va s'habituer à avoir des problèmes d'approvisionnement pour les médicaments ou pour d'autres choses, on va s'y habituer. L'homme, il est prêt à s'habituer à tout. Donc voilà, moi je voulais simplement dire...
Vous pensez ça, vous pensez qu'en 2030, on va être dans une situation encore pire qu'aujourd'hui, parce que c'est ce que vous décrivez,
ouais.
Et qu'on va s'y habituer?
Bien sûr. Ces pénuries, les vaccins, on va plus trouver les matières premières pour les fabriquer, ou alors maintenant on voit bien que quand il y a des vaccins qui sont éventuellement là pour nous aider, ça va être partagé entre des pays qui ont les moyens d'un seul coup d'acheter carrément les labos et de tout garder pour eux. On va s'y habituer, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On va s'y habituer, donc il y aura la moitié de la population qui va mourir d'un truc, pendant que l'autre est en train de passer une partie de sa vie au soleil, mais je crois même pas... Ça va pas être terrible parce qu'on s'habitue tellement facilement. Je trouve que c'est presque là ce qu'on peut reprocher de plus à l'homme, c'est ce côté de s'habituer à tout, à l'horreur. Les gens se sont habitués pendant les guerres, ils se sont habitués. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, des vieilles personnes que j'ai rencontrées, qui disent « Mais attendez, vous nous faites rigoler avec votre confinement, là. Vous savez ce que j'ai vécu pendant la guerre dans des caves ?» Et ben voilà, le confinement, on pensait qu'on n'y arriverait pas, ben on va y arriver tout doucement. Et on va s'y habituer, ça c'est sûr. On s'habitue à des masques, on va s'habituer à d'autres choses.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le livre de Philippe Djian, 2030, est paru en poche chez J'ai lu, et vous le retrouverez bien sûr dans cette émission lorsqu'il sera sorti de son confinement pour parler de son nouveau roman. À suivre donc, les coups de gueule et les coups de cœur suite avec les libraires et un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, Emmanuel, oui, parce que c'est l'automne.
Oui.
Et en automne, il y a quoi? Il y a des marronniers. Ouais, on râle. On râle. Oui, moi, je râle tout le temps, vous me connaissez.
Oui.
Mais il y a des marronniers. Et un des marronniers de la rentrée, c'est la saison des prix littéraires qui est revenue.
Oui.
Alors, d'accord, c'est chouette, on vend des livres. Mais ce qui est pénible, c'est qu'on n'en vend plus que quelques-uns, toujours les mêmes. Les gens, ils n'ont qu'une idée en tête, ils veulent les prix. Parfois, ils nous demandent vaguement si on les a lus, mais ils s'en fichent complètement de la réponse. Ils les achètent, ils les offrent, et puis il y a une pauvre personne qui les reçoit, et bim, nous, les libraires, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on les reçoit comme des boomerangs. Il y a une personne qui fait une petite fête, et ben, elle reçoit 3 fois le Goncourt, 2 fois le Renaudot. C'est super, mais il faut pas oublier qu'il y a des autres livres aussi.
C'est vrai, il y a le Goncourt qui arrive, vous allez être servi dans quelques jours. Bon, merci Déborah. Cap sur la Suisse avec un coup de cœur, Dominique Bressoux.
Oui, un coup de cœur pour Le Château de Sable de Frédéric Peters et Pierre-Oscar Lévy.
Il a eu un prix ou pas?
Non, il n'a pas eu de prix.
Okay.
Mais il devrait. C'est une réédition cartonnée, en fait, d'une magnifique BD, et ça, c'est bien. Mais avec une explication de la genèse de l'histoire ajoutée en début d'album, c'est encore mieux. La raison de cette réédition tient au fait qu'un film en a été tiré pendant l'été, mais on voit là que même avec plus d'images et de sons dans le film, la BD est beaucoup plus marquante et subtile. Ce moment où 13 personnes restent coincées sur une plage pour une raison inconnue et vont se mettre à vieillir à toute allure, ça vous prend aux tripes, et le message subliminaire que veulent faire passer les auteurs est reçu 5 sur 5. Mais je vais pas spoiler, lisez-la ou relisez-la.
Très bien. Alors c'est un mot anglais ça, spoiler, hein, donc il faudra trouver un autre mot, Dominique. J'ai pas anticipé, je ne vais pas dévoiler par exemple. Avis à tous ceux qui nous écoutent et qui sont très très proches de la langue française. Le Château de Sable de Frédéric Peters s'est paru aux éditions Atrabile. Merci beaucoup Dominique. La suite de notre séquence livre de poche avec des conseils de lecture pour vos éventuelles vacances et week-ends à petit prix et facile à emporter en plus. Le dernier roman en date du Djiboutien Abdourahmane Ouaberi est sorti cette semaine chez Folio. parler de votre livre, Abdourahmane Waberi, Pourquoi tu danses quand tu marches, parce qu'un jour, votre fille vous pose cette question-là. Papa, pourquoi tu danses quand tu marches?
Oui, Emmanuel, j'ai eu d'autres enfants. J'ai eu deux enfants, deux garçons, mais à l'époque, ils ont dû me poser la question, mais j'avais pas les oreilles pour l'entendre. Donc, il a fallu que je traverse un bout de vie, on va dire, que j'atteigne ce qu'on appelle la maturité. Et un jour, donc, ma fille m'a dit « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» Mais en fait, elle avait déjà entendu une petite musique dans la famille. Cette musique disait « Tu ne peux pas demander ton père ça. Mmh. » Tu ne peux pas demander à ton père de monter à cheval.
De faire du vélo.
Voilà, ou de faire du vélo, parce qu'il ne sait pas le faire, il n'en est pas capable, etc. Et donc, cet enfant qui avait 5 ans à l'époque, 4 ans et demi, m'a un peu tanné en disant « Est-ce que tu sais faire ceci ou cela ?» Et au fait, elle voulait s'attaquer, ou en tout cas, elle voulait me faire parler de mon enfance et surtout de ma différence, parce que je boite depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Et je n'avais jamais parlé avant. Souvent, j'allais donner un coup de poing à celui qui allait évoquer ça. Donc, je suis revenu pour elle sur cette différence et sur mon enfance à Djibouti.
Alors, vous êtes un enfant assez faible physiquement, vous le racontez, mais bon élève.
Hein.
Oui, vous étiez. Vous n'êtes plus un enfant maintenant. Hein. Peureux, timide, vous écrivez ça, je ne me sentais pas entier comme les autres. Et vous vous réfugiez dans la lecture, comme les filles de votre entourage, ce qui vous vaut des insultes, hein, voilà, les insultes habituelles et idiotes. Votre mère a une grande peur de la mort. Dans tout le quartier, d'ailleurs, on a peur de la mort. Et lorsqu'un gamin, un jour, vous fait tomber, volontairement, et que vous revenez en sang, elle panique. Oui, et ça change votre vie, ça aussi.
Absolument, parce qu'on date, enfin c'est toujours pareil, mais je date en tout cas les traumas à cette période-là, puisque j'ai eu quelques semaines plus tard la polio. J'ai attrapé la polio, et donc le fait que je sois tombé, c'était le premier jour de la classe, hein, donc c'est déjà une humiliation devant tout le monde, et un geste un peu, on va dire, de sadique, quasiment. Et donc voilà, moi à partir de ces moments, je pense que je me suis renfermé comme une huître, et voilà, ça a changé le cours de ma vie.
Alors vous confiez à votre fille Béa le manque d'affection de vos parents. Votre mère vous délaisse à partir du moment où elle a un nouveau bébé. Mais cela semble avoir renforcé votre personnalité, Abdourahmane Waberi. Quand on n'a pas l'amour de ses parents, on est obligé de compenser, on est obligé d'exister autrement.
C'est pas seulement qu'elle m'aimait pas, c'est plutôt qu'elle était très jeune. On n'apprend pas à être mère. Hein. Elle était très jeune, elle a eu un enfant, un premier enfant qui est mort. Et moi j'arrive, j'étais maladif, donc j'allais partir, pensait-elle. Et donc, en fait, elle me filait aux cousines, aux tantes, etc. Donc, elle avait une peur de m'avoir dans les mains, et elle avait une peur d'être en mère. Elle avait une peur de cette situation. Et après, on est dans la famille africaine, donc ce manque d'attachement maternel a été compensé par l'intervention de la grand-mère, par exemple.
La grand-mère, tantes, ouais. Voilà. On va en parler dans un instant. Vous racontez aussi votre circoncision très vite, Abdourahmane Waberi, parce que c'est un rituel, un sujet...
C'est un classique.
Voilà, c'est un classique. Beaucoup d'écrivains l'abordent, et c'est vrai qu'il n'y a pas autant de conséquences qu'avec l'excision chez les filles, mais ça reste une mutilation quand même traumatisante pour le petit que vous étiez.
Aujourd'hui, c'est devenu un geste véniel, hein, d'intervention chirurgicale. Ouais. Mais avant, il y avait quelques risques quand même. On pouvait en mourir, on pouvait avoir une hémorragie, on pouvait, voilà. Mais c'est aussi une frayeur parce que c'est l'entrée dans l'âge d'homme, et donc la société les marque par cette mutilation symbolique, mais mutilation quand même, vous voyez.
Ouais. On donne votre prépuce à manger au chat. Ce que vous racontez,
ça, c'est une invention d'auteur.
Mais j'espère. C'est votre grand-mère, Abdourahmane Waberi, qui vous raconte des histoires. Vous avez le goût comme ça pour l'imaginaire. Vous devenez très bon en rédaction, à tel point que tout le monde vous demande d'écrire des choses à leur place, comme un écrivain public, que ce soit à l'école ou à l'extérieur. On se dit, il faut aller le voir. C'est lui qui sait écrire.
Bah écoutez, j'ai eu la chance d'avoir une série, une lignée d'institutrices et d'instituteurs qui étaient très bons. Donc, j'ai... épouser, on va dire, la langue française, et par leur biais, hein, par leur entrée. Et donc ça m'a permis à la fois de me développer, mais aussi de voilà développer des toxines pour se défendre, voilà, attaquer. Aujourd'hui, je défends la littérature française aux États-Unis, donc c'est pas un hasard. Tout ce que j'ai raconté est vrai, donc la littérature m'a d'une certaine manière sauvé. Je suis resté fidèle aux poèmes, à la langue, à la poésie. Parce que je ne savais pas danser sur les terrains de foot, que je n'étais pas très fort à la cour des récré. Ouais. Donc voilà, chacun fait ce qu'il peut ou il peut.
Et quand votre grand-mère disparaît, vous dites que c'est tout un pan de votre histoire qui disparaît.
Bah, la grand-mère, c'est les racines africaines, c'est l'oralité, c'est les rapports à la magie, parce qu'elle imaginait Emmanuel. Elle disait souvent qu'il faut saluer les personnes réelles, vraies, mais aussi il faut saluer les plantes, ce qu'on appelle les vivants aujourd'hui. Mais elle disait il faut saluer aussi les absents, donc la lignée des gens qui nous a, nos parents, nos arrière-parents. Donc elle voyait ces mondes-là de visu, hein, j'allais dire, et donc j'étais très affecté, enfin voilà, contaminé par elle quand j'étais à ses côtés, parce que tout d'un coup mon monde s'animait, ouais. J'avais l'impression d'être dans un film en technicolor en même temps.
Puis c'est la tradition orale aussi. C'est l'écrivain malien Amadou Mbateba qui disait en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Plus jeune, j'avais un peu dénigré Mbateba, mais aujourd'hui, je suis revenu. Je suis un idolâtre de Mbateba. J'écris un certain nombre de papiers dans le monde, notamment pour lui rendre hommage, mais c'est tout à fait vrai parce que Mbateba est justement cette génération qui a la charnière entre le nouveau monde africain et l'ancien monde africain.
Et avec votre fille, vous avez voulu transmettre Abdourahmane Wabéry, lui donner aussi un esprit vagabond avec des voyages. Vous voyagez avec elle?
Je voyage avec elle et on voyage déjà. À son âge, elle a déjà voyagé plus que beaucoup de gens. Ordinaire, j'allais dire.
Et le roman d'Abdourahmane Wabéry, Pourquoi tu danses quand tu marches, est paru en poche chez Folio. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec l'extrait d'une nouveauté originaire de la Martinique. Voici le groupe Daudlin. C'était le groupe martiniquais Daudlin avec un extrait de son nouveau titre, See My Love. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Vincent Désière. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter. Avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, Patrice Lecomte sera sur notre plateau. Entre autres, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt, salut.